On continue avec le diplôme du mois de décembre, on va finir même avec Benoît Bréville qui va nous raconter qu'il y a quelque chose qui marche bien dans le monde, c'est la philanthropie. Voilà une bonne nouvelle, hein ? Aimons-nous les uns les autres. Et quand on prend les États-Unis, là en principe vous traitez tous les pays occidentaux, mais enfin quand même on peut dire que votre papier parle énormément des États-Unis où la charité prospère. Et selon vous, prospère contre l'État?
Oui, dans tous les pays occidentaux, il y a une forme de vague d'admiration pour les nouveaux philanthropes milliardaires. Vous vous souvenez qu'en 2010, Warren Buffett et Bill Gates avaient entraîné une poignée d'autres à donner au moins la moitié de leur fortune avant leur mort. Eh bien, tous les médias français, américains, européens avaient salué ce grand geste de générosité. Et donc, j'ai voulu un petit peu apporter, disons, quelques nuances à cet enthousiasme ambiant sur la philanthropie, tant en France qu'aux États-Unis. D'abord, en rappelant qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Quand la philanthropie est apparue à la fin du 19e siècle aux États-Unis, donc c'est les grands noms, hein, Rockefeller, Carnegie, etc., eh bien, il y avait une vague d'opposition à cette philanthropie. On reprochait à ses patrons, qui étaient très brutaux dans leurs usines, de se montrer particulièrement généreux avec les universités, les arts, les sciences. Et du coup, il y avait une vague de contestation. Il y avait des ouvriers qui refusaient d'aller fréquenter les bibliothèques construites par leurs employeurs à l'usine. Il y avait des syndicalistes qui s'y opposaient également.
Quand on leur donne des bibliothèques, ils n'en veulent pas.
Voilà. Mais en fait, au-delà de ces critiques, j'ai voulu montrer surtout dans l'article que cette philanthropie des milliardaires était en fait que la partie émergée de l'iceberg philanthropique aux États-Unis, puisque les dons aux États-Unis représentaient en 2013 335 milliards de dollars, ce qui représente quand même 2% du PIB. À titre de comparaison, en France, les dons, c'est 0,2% du PIB.
Donc, nous, on est plus radin ou c'est l'État qui s'en occupe mieux?
Il y a une forme de philanthropie de masse aux États-Unis. C'est, je pense, le poids de la religion aux États-Unis, la religion protestante et la religion catholique, qui incitent aux dons, à la charité, à l'entraide mutuelle, etc. Et il est assez intéressant de voir qu'aux États-Unis, les États qui donnent proportionnellement le plus, la Géorgie, la Caroline du Sud, le Tennessee, le Texas, etc., sont également les États où la pratique religieuse est la plus importante. Et donc, il n'est pas tellement étonnant qu'en France, où la pratique religieuse est beaucoup moins importante qu'aux États-Unis, où je rappelle que 80% des gens déclarent croire en Dieu et 40% de gens allaient régulièrement à l'église, et bien, il n'est pas étonnant que la proportion de dons aux États-Unis soit bien plus importante. Mais également, on a essayé d'analyser les raisons, disons, proprement politiques qui font que cette philanthropie est à la fois spontanée de la part des citoyens, mais également fortement encouragée par les États par plusieurs manières. D'abord, par le biais des défiscalisations. Quand vous donnez de l'argent à un organisme charitable, une église, etc., au moment de votre déclaration d'impôt, à la fin de l'année, vous pouvez indiquer que vous avez fait ce don et retrancher une partie de ce don de vos impôts. Donc il y a une partie des dons qui sont pris en charge par l'État. En France, depuis 2003, il y a un régime très favorable qui a été adopté de ce type-là pour favoriser les dons des particuliers et des entreprises. Il faut savoir qu'entre 2003 et 2013, la quantité de dons en France a été multipliée par deux, dont le surplus a été entièrement assumé par l'État.
Cette défiscalisation, ça fait quand même moins de sous pour l'État.
Ça fait beaucoup moins de sous pour l'État, ce qui serait pas véritablement grave si l'argent des dons était forcément bien employé.
Comme lorsque les gens versent pour le monde diplomatique.
Par exemple, où il y a une défiscalisation, ça fait des sous pour le monde diplomatique, mais ça fait des sous en moins pour la communauté.
Non, mais c'est-à-dire que l'État, en France, verse beaucoup d'argent à des publications inutiles et n'en verse pas à des publications indispensables, qui éclairent le monde.
Oui, donc il y a des dons qui sont bien employés, comme ça au monde diplo ou à la base, j'y suis. Et puis, il y en a qui sont moins bien employés. Il y a également le problème que les dons ne se basent pas sur la logique de la redistribution, qu'essaie de garantir l'État et de l'égalité qui s'arrange sur l'État, mais selon une logique énormément affinitaire. C'est-à-dire que vous regardez les dons aux États-Unis, eh bien, les gens vont plutôt donner à leur ancienne école, à l'église qui est dans leur quartier, à leur ancienne université. Et donc ça aboutit à une forme de creusement des inégalités. On cite dans l'article le cas de deux écoles en Californie. L'une est située dans un quartier huppé de Woodside et l'autre est située à 15 km de là, dans un quartier plutôt pauvre. Et l'école de la ville riche a reçu en 5 ans 10 millions de dollars, ce qui lui a permis de financer des cours d'informatique, des cours d'art, des cours de musique, etc. Et l'école qui était à côté, qui accueillait pourtant beaucoup plus d'élèves, eh bien, recueille 0 dollars parce que notamment les gens qui habitaient à côté, les parents d'élèves, avaient des revenus trois fois inférieurs à celles de l'école de Woodside. Et donc là, on voit bien comment le don a permis de renforcer une école qui était déjà privilégiée, là où celle qui en avait le plus besoin, eh bien, se retrouvait à avoir rien. Et cela avec l'aval de l'État, puisque tous ces dons-là étaient défiscalisés. Donc on voit bien que ce système de défiscalisation et cette logique affinitaire fait que l'État participe au creusement des inégalités. Et il y a aussi également d'autres effets pervers qu'on évoque dans cet article, c'est que pour récolter de l'argent, eh ben, les associations sont obligées de dépenser de l'argent. La plupart des grands organismes caritatifs font même appel à des sociétés sous-traitantes qui vont faire de la collecte de fonds, ou alors embauchent une armada de démarcheurs qui font de la sollicitation dans les grands magasins, de la sollicitation téléphonique, etc.
Qui prélèvent de façon importante sur les dons.
Normalement,
c'est un business.
Le seuil considéré comme acceptable, c'est que 70% du don doit aller à la cause qui est censée être aidée. Et or, aux États-Unis en particulier, eh bien, dans beaucoup de cas de grandes fondations, c'est plus de 70 ou 80% des dons qui reviennent à la collecte de dons. Il y avait même un cas qui est arrivé en 2012 où une grande fondation de recherche médicale qui avait lancé une campagne où ils envoyaient une lettre à quelqu'un pour solliciter des dons. La personne était censée renvoyer la lettre à 10 autres personnes, etc. Et bien cette campagne-là, 98% de l'argent récolté est allé au financement de la campagne en question.
Ce dont vous parlez aussi, c'est des conseillers, c'est-à-dire des institutions, des entreprises qui vous conseillent pour vos dons, qui vous conseillent pour placer là ou là ce qui va être profitable à votre image de marque, à votre entreprise, une espèce de social washing comme ça que vous pouvez utiliser.
Voilà.
C'est coûteux.
Ça, évidemment, c'est coûteux parce que c'est aussi de l'argent qui, la plupart du temps, des organismes sans but lucratif, qui profitent effectivement du système de défiscalisation des dons. Et toutes ces entreprises, effectivement, conseillent investir en Haïti. T'es pas très rentable au niveau de l'image de marque parce que tout le monde investissait à Haïti et que pour se distinguer, il valait mieux choisir une autre cause.
L'enfant est quand même un produit d'appel remarquable. Un enfant maigre, amaigri, dans un paysage désolé, ça permettra de faire rentrer pas mal de dons quand même. Et en France ?
En France, la pratique du don est beaucoup moins répandue, comme je disais tout à l'heure, parce que notamment, je pense que la croyance dans les vertus distributives de l'État sont bien plus répandues qu'aux États-Unis. Mais par contre, ce qui se fait énormément, c'est le système de sous-traitance d'un certain nombre de services publics à des associations qui sont financées non pas par des dons privés, mais par des subventions publiques. Donc vous prenez, je ne sais pas, l'exemple de la politique de la ville, par exemple, et de ce qu'on avait appelé le développement social des quartiers, toute une manne de financements publics qui venait du ministère de la ville, du ministère des Affaires sociales, etc., et qui était ensuite reconvertie en subvention à des associations pour organiser des cours d'alphabétisation, pour organiser des cours de sport, etc. Services qui étaient auparavant, la plupart du temps, fournis soit par des organisations militantes, donc pour les quartiers populaires satellites du Parti communiste, soit par les mairies, qui, du coup, ont pu profiter de l'apparition de ces nouveaux acteurs pour se désengager des services sportifs, etc. etc. Et un autre exemple où aujourd'hui, la gestion de la grande pauvreté est très largement sous-traitée à des institutions caritatives, soit énormes du type les Restos du Cœur, par exemple, soit des petites associations de quartier, parfois confessionnelles, qui profitent de dons privés, mais plutôt de dons en nature, du type les collectes alimentaires à la sortie du supermarché, mais qui bénéficient également de subventions publiques. Parce que pour l'État, passer par ce type de structure où on sait, on avait publié un article il n'y a pas longtemps dans le Diplo sur les conditions de travail dans le secteur associatif qui s'appelait Juste cause et bas salaire et qui montrait très bien qu'effectivement, à l'intérieur de ces associations, eh bien, les gens sont beaucoup plus souvent en contrat précaire, que leurs salaires sont bien inférieurs à ceux qu'on peut trouver parmi les fonctionnaires, etc. Les associations sont utilisées pour rendre des services publics à moindre frais. Mais néanmoins, ça reste de l'argent collecté par les impôts qui les financent.
Ok, merci. Beaucoup d'autres papiers dans le monde diplomatique, évidemment, de ce mois-ci. Il y a un très bon papier sur Apollinaire et son époque, au milieu du Diplo. On a beaucoup parlé de la Première Guerre mondiale tous ces temps derniers, mais on a oublié à quel point cette Première Guerre mondiale avait mis un terme et avait massacré toute une vie culturelle, artistique et poétique. Voilà, merci à tous les quatre.